Mélancolie. À partir de ce coup-là, mon avenir était une plaine. Je trouvais tout morose, sans intérêt, monochrome. Moi qui avais l'habitude des histoires à rebondissements, des hauts, des bas, j'allais m'endormir d'ennui. J'ai horreur de la monotonie, j'ai horreur des plaines, la Beauce, la Brie. Si seulement ces zones horizontales étaient la mer. Je morfondais dans mes pensées quand Pierre fit irruption. Il cherchait sa toupie, mais l'objet en question n'était pas là. Il repartit la chercher dans une autre pièce et moi, je replongeais dans mes pensées. La toupie avait pris place au milieu de la plaine. Elle faisait jaillir des petites notes de musique éparses, parfois englouties par le bruit de la mer. Tout se mélangeait maintenant, mais depuis la perte de ce dernier amour, les images heureuses avaient du mal à faire surface. J'entendais les quelques notes s'égrener à travers le roulis des vagues, mêlées aux chants immenses, labourés de près à travers mon chagrin silencieux. Oui, mon avenir était une plaine, et je déteste les plaines et les étendues statiques à l'infini. Je ne supportais dans ce rôle-là que la mer qui s'agitait toujours, toujours vivante. Un tableau de couleurs vint à mon regard. Du bleu vert, du bleu marine, du vert. La toupie très rouge de Pierre qui tournait, coincée là au milieu de ce rêve mouvant, au-dessus de l'étendue de l'eau, en jouant joyeusement sa petite mélodie répétitive. La musique sortait des vagues. Le mouvement de l'eau se mêlait au mouvement circulaire du jouet. Tout chavirait sous mes yeux, tout se transformait. Un bateau rouge maintenant flottait, un bateau toupie flottait. Et sa musique s'éloignait doucement. Fin de la nouvelle. Interrogation écrite. La première réaction a été violente.
Interro écrite? Mais les profs sont ouf dans ce collège, dame, ça se fait pas, on n'a jamais vu ça en art plastique, ça craint grave, on n'a pas que ça à faire, puis on s'en bat les couilles de l'art plat, on fait des maths pour le brevet, mais ici avec vous on dessine, c'est tout, ça suffit.
Etc., etc. Les élèves ont beaucoup râlé, parfois violemment, au début, quant à l'existence des interrogations écrites en art plastique. Mais Madame Solange a tenu bon. Pendant le mois de septembre, elle est partie dans la banlieue verdoyante les fins de semaine sur les bords du canal de Lourdes qu'elle marchait. Solitaire et soliloquente, elle se mettait au calme pour réfléchir à ses cours. C'est sa première année dans ce nouveau collège à Paris, mais il est aussi difficile qu'un collège de banlieue. Aujourd'hui, on est au premier trimestre. Et l'annonce des interrogations écrites a suscité un tollé dans toutes les classes. Les interrogations écrites en art plastique, ça ne se fait pas ici. Tant pis, ils vont s'y faire, s'était-elle dit. Il faut qu'ils apprennent aussi, dans ma discipline, il y a des choses à connaître, là, comme ailleurs, comme en mathématiques. Pour que les arts plastiques soient respectés et placés au rang des autres apprentissages, ce qui n'est pas le cas au niveau de la direction de la plupart des collèges, à l'instar de la musique et de l'éducation physique. Les élèves doivent savoir que des contenus disciplinaires et du vocabulaire spécifique existent. Ils ont un cahier sur lequel ils notent à chaque cours l'essentiel à retenir de la leçon, essentiel qui le reste durant les 4 années de collège. En art plastique, les contenus disciplinaires ne changent pas d'une année sur l'autre, comme dans les autres matières. Ils ne changent pas, mais se complexifient d'une année sur l'autre. Quand ils ont contrôle, l'heure de cours est alors partagée en 2 temps inégaux de 1 quart d'heure et 40 minutes, sachant que l'heure de cours ne fait que 55 minutes. Les élèves prennent leur cahier pendant 1 quart d'heure. Ils revoient tout ce qu'ils ont écrit. Les cahiers sont ensuite ramassés et les questionnaires distribués. Ils ont alors 40 minutes pour répondre jusqu'à la fin de l'heure. Ils n'ont aucun travail à faire chez eux, bien sûr. Madame Solange sait qu'ils ont beaucoup à faire par ailleurs. Les questionnaires appellent des réponses simples, mais le professeur doit pouvoir vérifier leurs acquis. En 6e, couleurs primaires, secondaires, tertiaires, complémentaires, chaudes, froides, le cercle chromatique. Ce sont les bases. Fabrication du matériau couleur par tâtonnement, les mélanges, mais aussi l'autonomie de la couleur. Une couleur existe par elle-même, indépendamment de son support ou de sa représentation. En 5e, matière et qualité de la couleur, teinte, intensité, nuance, rapport, interaction avec le support, transparence, épaisseur, l'étendue comme qualité nouvelle de la couleur avec Matisse. En 4e et 3e, on affine les rudiments de la composition, travaux appliqués de plus en plus complexes. On introduit les points de vue de l'image, les plans, la profondeur, la perspective. On réfléchit sur le comment représenter le monde, puis comment transgresser la représentation ou comment construire un paysage. L'enseignement de Madame Solange est toujours relié au cours de ses collègues. Il y a des paysages en art, c'est l'art majeur du XVIIe siècle avec le Grand Poussin, mais il y a des paysages en géographie, des paysages poétiques en français. Et elle explique patiemment qu'une discipline n'est jamais isolée des autres, que le savoir forme un tout cohérent. En art plastique, tout vient de la lumière, les couleurs ont des longueurs d'onde, de l'ultraviolet à l'infrarouge. C'est de la physique. Madame Solange aime, en 3e, faire des digressions, même jusqu'à la philosophie, la notion d'étendue, la matière comme étendue dans la seconde méditation de Descartes, la couleur comme substance ayant une existence physique étendue dans l'espace et agissant sur les sens, ce qui entraîne son utilisation à des fins thérapeutiques ou criminelles. Elle parle des couleurs sur les murs des hôpitaux. Elle parle aussi du conditionnement par la couleur de certaines victimes dans certains pays en temps de guerre. Elle aime établir des passerelles avec les autres cours, avec les autres temps, avec l'actualité. La représentation en 3D arrivera au 2e trimestre, avec des prolongements vers l'espace et la perspective cavalière en géométrie. Cette année, en 3e, elle terminera sur le spirituel dans l'art de Kandinsky. Avec lui, on se détache de la matière et de la représentation. On entre dans la couleur, on peut traduire le monde seulement avec des énergies colorées et des sensations sonores. Lorsque Kandinsky voit des couleurs, il entend aussi des sons. Et c'est un monde complet qui se recompose. Le jaune est une couleur au mouvement excentrique, une couleur terrestre qui sort de son support, qui s'approche de l'œil. Le bleu, au contraire, une couleur au mouvement concentrique,
céleste qui s'éloigne de l'œil. Le mélange de ces deux extrêmes produit le vert, une couleur parfaitement immobile et calme. Dans le vert, on descend, on se noie, on chemine doucement. Il n'y a aucun danger, c'est la sécurité. Dans le rouge, on s'arrête, on s'enflamme, notre cœur s'emballe. Au sein de la nature, ces deux couleurs n'ont souvent pas le même temps. Le vert devient rouge en deux temps différents. Dans les fruits, par exemple, les couleurs racontent l'histoire incroyable de la vie. Et une petite voix, au fond de la classe, demande soudain à Madame Solange « Madame, faut qu'on aille à la Cité des Sciences pour voir la décomposition de la lumière, ça m'intéresse. » Et une autre voix encore « Madame, on pourra voir le grand poussin ?» Avec sa passion, Madame Solange a réussi à faire aimer sa discipline au même titre qu'une autre. Elle s'est battue avec eux et aujourd'hui, plus personne ne trouve à redire à ces interrogations écrites. Fin de la nouvelle. Le tribut. Je promène Sarah dans les rayons d'un magasin de décoration. Je suis sa gouvernante. Elle va avoir 18 ans. Ses parents reviennent d'un séjour touristique ce soir pour son anniversaire. Et je suis chargée de lui acheter un cadeau. La Mercedes et le chauffeur nous attendent, non loin de là. Les tentations ne manquent pas, entre les vêtements, les bijoux, les parfums, la décoration. Elle a opté pour cette dernière proposition. Nous traînons donc au milieu des stands multicolores, toute une panoplie d'objets exactement identiques se font face dans des couleurs différentes, des coussins, des corbeilles, des verres fantaisie, des chaises pliantes, des vases, des tapis de table, autant d'objets absolument inutiles, faits uniquement pour séduire le regard et étaler les produits créés par une société de consommation outrancière. Sarah n'arrive pas à faire son choix. Elle avance maintenant entre les articles de jardin, pots en tout genre, de toute taille et de toutes les couleurs, plus loin les épluches pommes de terre rouges et les autres verts, juste en face, plus loin encore, les pots à tabac et leur repose-pipe. Elle farfouille ma visiteuse, mais elle ne trouve rien. Il est difficile de faire plaisir à Sarah. Elle est blasée, elle a déjà tous les gadgets. Un vendeur s'intercale entre nous, posant des questions sur nos désirs, mais nous ne savons que répondre. Aucune nécessité ne nous pousse là, si ce n'est la volonté de ses parents de lui faire un cadeau d'une part, une très vague envie d'en recevoir un d'autre part. Elle opte bientôt pour une corbeille à papier en osier rouge, sous l'œil un peu triste de sa jumelle verte juste en face. « Voilà, dans mon bureau elle ira très bien, » dit Sarah. « Tout mon mobilier et rouge, quoique j'aurais pu faire un contraste de couleurs en choisissant la verte. » Elle hésite. « Prends les deux, » dis-je. Elle hésite encore. Dit que ça allait faire bizarre, ce seul point vert, au milieu de tout le rouge. Elle regarde maintenant les autres objets verts, s'attarde sur un coupe-papier, un petit pot à crayon. « Parfait, » lui dis-je, « prends tout ça. Il y aura ainsi un mélange des deux couleurs, ce sera très joli. » La situation commence à me peser. Je suis patiente, mais jusqu'à un certain point. Je rêve soudain de sortir de ce lieu surchauffé, bruyant, sans intérêt pour moi. Moi, la déco, je me la fais toute seule, avec trois bouts de tissu et trois morceaux de fil de fer. Les objets, je les transforme, je les explose. Je les détourne toujours de leurs usages premiers. J'ai confectionné des lustres du meilleur effet avec des vieilles passoires à légumes et des rubans multicolores qui flottent au vent. Là, j'en ai vraiment marre. « Prends tout ce que tu veux, » lui dis-je encore. Mais non, elle ne sait pas, elle traîne, encore indécise. J'attrape deux corbeilles à papier, une rouge, une verte, que j'emboîte. Je mets dedans un coupe-papier vert, un pot à crayon rouge, un petit tapis de bureau vert et je file à la caisse. Ça y est, je suis dehors, enfin libérée de cet ennui que j'éprouve toujours en compagnie des objets. Elle pourra écrire et froisser ses pages blanches, elle pourra ouvrir les courriers de ses petits copains, elle pourra ranger dans son pot ses stylos Mont Blanc. Quant à moi, je l'attends dehors avec les poubelles. Elle arrive au bout de quelques minutes, maintenant il faut trouver la voiture. J'avance d'un bon pas, vraiment soulagée, soudain je me retourne, j'ai un doute et de fait, il n'y a pas de Sarah derrière moi. Je reviens en arrière et je la trouve en arrêt devant la vitrine d'un magasin d'affiches qui vend des posters. Ils ont exposé la reproduction d'une fresque murale du Quattrocento et Sarah est là, ébahie, métamorphosée face à l'objet. Je ne l'ai jamais vue ainsi, nous n'avons jamais eu d'échange sur l'art. J'ai étudié cette œuvre cette année dans mon UV qui s'appelle « L'invention de la perspective », dit-elle. Je l'adore, je la veux. Nous entrons dans la boutique et je l'achète. Arrivé à la maison, il y a deux paires d'yeux sur cette fresque de Masaccio. Le paiement du tribut de Saint-Pierre, emprunté à l'évangile selon saint Matthieu. Sarah m'explique avec passion ce que nous voyons. Les 12 personnages groupés, dont nous voyons les auréoles, sont les apôtres et Jésus est au centre. La scène se passe aux portes de Capharnaüm. C'est la 12e des 12 fresques sur la vie de Saint-Pierre. Pour comprendre, il faut suivre le mouvement des bras de Jésus et de Pierre qui emmène le regard du spectateur vers la gauche. Le geste du Christ est redoublé par celui de Pierre. Effectivement, à l'extrême gauche, Saint-Pierre est au bord du lac de Génézareth et s'occupe à extraire une pièce d'argent de la bouche d'un poisson. Le bras du Christ a donc indiqué à Pierre où trouver l'argent. C'est l'impôt sur le revenu d'aujourd'hui, une des premières représentations de l'argent dans l'art du XVe siècle. Jésus dirige les temps de la scène. Nos yeux vont du centre vers la gauche, pour revenir ensuite au centre, et enfin à l'extrême droite, où l'action se termine et où Saint-Pierre donne la pièce au collecteur. Comme toutes les fresques, c'est une narration où le sens de lecture est précis. Le temps de l'histoire se déroule de la gauche vers la droite sur 6 mètres de long, mais l'ordonnateur est au centre. La profondeur est donnée par les marches à l'extrême droite qui représentent les lignes de fuite, par les dégradés de couleur des montagnes et par les silhouettes dénudées des arbres qui s'alignent en perspective sur le fond. Le seul personnage de dos est le collecteur dont nous n'avons pas besoin de voir le visage. Il est vêtu d'un habit rouge, comme tous les autres, mais c'est un habit court qui laisse voir ses jambes. On ne voit jamais les jambes des personnages religieux dans les fresques. Les apôtres et le Christ, eux, sont en vêtements très longs et tous habillés ou drapés de rouge également. Ce sont des drapés à la grecque. L'apôtre de gauche, à la longue barbe blanche, porte un drapé vert par-dessus sa robe rouge. Le professeur nous a dit qu'un historien de l'art nommé Daniel Arras avait fait en substance le commentaire suivant. Le monde s'ouvre ici à l'action des hommes.
contrairement aux figures gothiques qui ont l'air de se tenir sur la pointe des pieds, les hommes ont maintenant, avec Masaccio, les pieds bien plantés sur le sol. C'est magnifique, ajoute-t-elle. Masaccio a peint ses fresques en quelle année, je demande. Entre 1424 et 1427, me répond Sarah. Et où peut-on les voir? À la chapelle Brancacci, dans l'église Santa Maria del Carmine, à Florence. Moi aussi, je trouve cette œuvre magnifique. Nous avons toutes les deux maintenant une belle complicité. Et outre cette fresque que je découvre aussi Sarah. Fin de la nouvelle. La rencontre. Il était une fois une jeune fille qui s'appelait Amélie. Elle était toujours habillée de rouge car c'était sa couleur préférée. Un jour, elle partit voir sa grand-mère qui était malade. Elle lui emmena un petit pot de beurre, un gâteau et une bouteille de vin. Elle devait traverser une grande forêt car sa grand-mère habitait de l'autre côté, tout au bout d'un long sentier. Elle rencontra là sur son chemin un homme d'allure étrange. Il avait l'air perdu au milieu des arbres. Il essaya de lui parler dans un langage de signes qu'elle eut du mal à comprendre. Il n'était visiblement pas d'ici, mais d'un pays lointain. D'après ce qu'elle comprit, il se trouvait en panne de voiture. Avec les sons inarticulés et les grands gestes qu'il faisait avec son petit corps, elle finit par supposer qu'il était parti chercher du secours et qu'une de ses filles l'attendait dans la voiture. Elle lui proposa de l'accompagner chez sa grand-mère, malade, où il pourrait téléphoner. Il la suivit. Amélie n'était pas très rassurée. En chemin, l'inconnu grimpa plusieurs fois aux arbres pour manger des feuilles, d'une façon frénétique, comme s'il avait une grande faim. Puis il descendit dans quelques creux d'eau apportés par la pluie pour y boire, à la manière d'un animal. L'idée vint à Amélie qu'il n'habitait peut-être pas sur terre, tellement elle le trouvait étrange. Tout en marchant, il faisait sortir de ce que l'on hésitait à nommer une bouche, car c'était un orifice sans lèvres, des borborygmes aux tessitures variées. Ses pieds ne ressemblaient pas à des pieds, ses mains ne ressemblaient pas à des mains, sa tête était une sphère parfaitement ronde et lisse, munie à son sommet d'une espèce d'antenne, qui bougeait au moindre mouvement en émettant des sons métalliques. Il n'avait pas de cheveux et des yeux sans paupières, ce qui faisait apparaître un visage sans ombre. On ne voyait pas de nez, mais de chaque côté de sa tête, de larges pavillons flottants, un peu comme des oreilles d'éléphant. Il n'avait pas de vêtements non plus, pas de sexe apparent, juste une croûte verte qui semblait très épaisse et dont le corps était entièrement recouvert. Il était plutôt petit, avec des sortes de jambes très maigres et sans forme. Une peur sourde monta chez Amélie quand il fit entendre une série de sons stridents qui venait d'on ne sait où, de son corps tout vert, peut-être du bout de son antenne. Elle comprit qu'il était en train de communiquer avec l'un des siens, et elle se rassura. La maison de sa grand-mère n'était plus très loin, on commençait à l'apercevoir entre les arbres, il marchait toujours, elle tenant son petit panier, lui tenant des bouquets de feuilles qu'il faisait disparaître régulièrement dans le trou de sa tête. Enfin ils arrivèrent et il hésita avant d'approcher, comme s'il était un peu apeuré par ce qu'il voyait devant lui, les murs, les fenêtres et le toit de la maison avec ses tuiles rouges. Amélie frappa à la porte. Toc, toc.
« Qui est là ?»
demanda la grand-mère. « C'est Amélie et je t'apporte un petit pot de beurre, un gâteau et une bouteille de vin.
Tire la chevillette et la bobinette chéra,
cria-t-elle avec peine depuis son lit. Ils entrèrent. Ce monsieur a besoin de téléphoner car il est en panne, dit Amélie. L'inconnu avait l'air impressionné et curieux. Il semblait s'étonner de tout ce qu'il voyait à l'intérieur de la maison. Quant à la grand-mère, elle était verte aussi. Son visage de malade, à la fois pâle et fiévreux, avait glissé du rouge au vert en passant par le bleu. Il s'approcha du téléphone, tapota sur le clavier avec ses mains, sans doigts, mit l'écouteur sur l'une de ses immenses oreilles décollées et attendit. Quelques secondes plus tard, on entendit des sons inhabituels, bizarres, sortir du téléphone. En le regardant, on pouvait penser qu'il était content, mais sur sa tête ronde, il n'y avait pas de muscles pour sourire, pas de modulation, pas d'expression dans ses yeux, pas de regard. On aurait dit une machine. D'un geste saccadé, il reposa le combiné et se retourna. Rapidement, il leur fit face. Sans plus attendre et sans chercher à s'expliquer de nouveau, il se jeta sur le petit panier d'Amélie, avala le beurre sans sourciller, avala le gâteau d'un coup et ingurgita le vin avec la fiasque. Et hop, puis il ouvrit les placards, attrapa encore au vol tout ce qu'on pouvait y boire et y manger. Il avalait en même temps les emballages en verre, en bois, en papier, en carton. Rien ne semblait le déranger. Une lumière rouge s'alluma à l'extrémité de son antenne, clignota avec un petit bruit sec pendant quelques secondes, puis fit place à une lumière verte toujours clignotante. Au bout d'un instant, la lumière verte devint fixe. Amélie et sa grand-mère pensèrent avec raison et non sans espoir qu'il s'agissait peut-être d'un signal positif qui les libérerait de leur cauchemar. « Fais attention à toi, Amélie !» cria la grand-mère. « Ce type est un père vert !» Mais oui, il avait une fille dans sa voiture. La voix de l'aïeul, soudain, eut pour effet de faire réagir l'inconnu. Il sentit sans doute qu'il était temps pour lui de déguerpir. Comme s'il sortait d'un rêve ou comme s'il avait craint quelque chose de fâcheux, il se dirigea d'un bond vers la porte, l'ouvrit et disparut au milieu de la forêt, sa petite lumière verte toujours au-dessus de la tête. Un peu plus tard, les deux femmes entendirent dehors un grand bruit près de la maison. Curieuse, Amélie alla voir ce qui se passait. Une forte lumière illuminait la clairière. C'était un énorme engin circulaire qui scintillait de tous ses feux multicolores et qui s'éleva bientôt dans un ciel où tombait doucement le crépuscule. Amélie comprit alors que la panne de voiture était une panne de soucoupe. Fin de la nouvelle. Un raté dramatique, c'est une histoire édifiante. C'est un loser. Dans la cour de récréation, ses camarades se moquent de lui sans arrêt. Il se fait huer pour un oui pour un non, ses chaussures, son pantalon, son blouson, son sac, son nom de famille, sa mère. Les adolescents ne sont pas tendres entre eux, mais surtout avec lui. Tout est sujet à les faire rire à ses dépens. Il n'est pas non plus un très bon élève. Ce qui est souvent le cas lorsqu'un collégien il souffre douleur des autres. Non, il est un élève sans éclat, simplement il n'est pas heureux chez ses parents. Sa mère est affectueuse, mais sans pouvoir le protéger du père, qui est violent. Il est une victime, comme certains sont tout de suite de gros costauds redoutables et redoutés. Il en prend conscience peu à peu, il n'ose pas encore réagir, il ne se sent pas assez fort, il n'en est pas encore là, il grandit lentement, ballotté de droite, de gauche, par les insultes, les agressions, le mépris. Ses parents n'ont pas pu faire mieux. Il vit dans l'insécurité depuis qu'il est tout petit. Son père a été élevé lui-même dans l'insécurité. Il le frappe tous les jours ou le ridiculise, les mémoires se répètent. Sa mère est une cousine de son père. Les deux époux sont dans la consanguinité, ce qui n'arrange certainement pas les choses. Une souffrance commence à venir, une angoisse, une peur de ne jamais s'en sortir, d'être toujours écrasé, battu. Rappelons-nous, nous-mêmes, de ce qui se passait quand nous avions peur. Que faisions-nous ? À notre insu, il se développait une force négative qui était aussi instinct de survie. Nous tuions l'araignée par peur qu'elle nous tue, car nous ne savions pas estimer le danger à sa juste mesure. La peur exacerbe le danger, l'amplifie, le passe à la loupe. Mais avons-nous le droit pour autant de faire n'importe quoi dans notre vie d'adulte? Ainsi, avec la souffrance, une violence arrive aussi et il se jure à lui-même qu'un jour, il trouvera la force qui lui manque pour se redresser. Il ne sait pas ce qu'il veut faire quand il sera grand, mais à son âge, il a 11 ans, c'est normal. Peu d'adolescents le savent. La personnalité et les désirs se forment souvent par élimination successive. Non, je ne serai pas fonctionnaire. Non, je ne serai pas inspecteur des douanes. Puis un jour, il y a soudain un projet qui plaît particulièrement. Artiste peintre, peut-être, oui, il faut contrer le père. Il a maintenant 19 ans, il n'a réussi aucune étude, mais une certaine force a grandi en lui. Il fera ce qu'il aura décidé de faire. Il tente encore de devenir artiste peintre ou architecte, bien qu'il ait déjà raté deux fois son examen d'entrée aux Beaux-Arts. Cependant, il peint et vit plus ou moins de ses peintures jusqu'à l'âge de 25 ans. C'est la vie qui va décider de son destin, mais c'est par pur libre arbitre qu'il devient engagé volontaire dans la Première Grande Guerre mondiale. Il est maintenant soldat. Ce n'est toujours pas brillant quant à ses ambitions personnelles. Il a 26 ans à la fin de la guerre, il sera blessé, gazé, mais il aura été un guerrier fanatique, sans aucune fraternité. Et il restera désormais dans la fascination de la guerre. Celle-ci lui a dévoilé son amour morbide pour la violence. Il restera dans l'armée. Il se découvre maintenant des talents d'orateur, il commence à faire des discours, il écoute Wagner, dont la musique passionnée sert de support à sa mégalomanie, à son narcissisme. C'est une justification pathologique de son propre désir. C'est l'artiste architecte de l'humanité qu'il désire devenir lui-même. Il lit Nietzsche, il adhère à sa théorie du surhomme sans la comprendre. Il a 29 ans. C'est alors que la souffrance accumulée pendant de longues années d'enfance se cristallise en une volonté de fer, un égo monstrueux, un esprit de vengeance. Le diable l'habite, la force est enfin là. Cette force qui lui manquait à 11 ans devant son père qui l'humiliait et dans la cour de récréation face à ses camarades. C'est une force destructrice. À 31 ans, il fonde le Parti National Socialiste des Travailleurs. Il change de style vestimentaire, le noir, la tenue militaire, la moustache. À 35 ans, son destin est scellé. « Quand on s'adresse aux masses, dit-il, point n'est besoin d'argumenter, il suffit de séduire et de frapper. » Il abolira le débat contradictoire, trop dangereux. Il ne parlera que devant des auditoires acquis. Il constituera son idéologie définitive basée sur l'antisémitisme et la haine de la démocratie. Il se croit désigné par le destin pour purifier l'Allemagne. À 44 ans, il atteint le pouvoir absolu. Vers midi, il est nommé légalement par le président et la démocratie en place, chancelier de la République de Weimar. Dès l'année suivante, il suspend toutes les libertés civiles. La même année s'ouvre le premier camp de concentration permanent. Des milliers d'opposants, de savants, d'intellectuels fuient le pays. C'est le début du désastre qui durera 12 ans, qui fera 40 millions de morts. À 56 ans, il se suicide. Il ne met pas fin à ses jours par remords ou par une crise mystique subite, mais à cause de sa défaite, il se suicide car il a perdu son pari. Enfantin, de se redresser, de marcher la tête haute, il n'a pas d'état d'âme. Il se suicide car il a perdu le pouvoir et que son rêve de vengeance a échoué. Il a le comportement d'un enfant qui a perdu au jeu. Il a ignoré jusqu'au bout les 40 millions de morts. Ils n'ont jamais été son problème. Son problème était d'imposer son pouvoir, de se faire respecter. Adolphe, que personne jamais ne rebaptise un enfant de ce prénom-là. Que personne n'ignore que tout homme est responsable de ses actes. Fin de la nouvelle. Elegit optimam partem. C'était laborieux, très laborieux. Isabelle ne se voyait pas dans ce rôle, elle ne s'y était jamais vue. Elle n'avait pas ce qu'il fallait pour ça. Dans la belle peinture de Velázquez, qui représentait Marthe et Marie recevant Jésus chez elle, tout la rapprochait de Marie, tout l'éloignait de Marthe. Celle-ci s'affairait dans sa cuisine pour mettre les petits plats dans les grands. Elle n'en finissait pas de s'activer devant les casseroles, la cuisinière où le feu flambait. Elle tournait une cuillère par-ci, s'écartait pour égoutter la salade, par-là, faire une sauce. Marie, elle, ne faisait rien. Et Isabelle ressemblait à Marie. Elle attendait pour écouter une parole. C'était la seule chose qui comptait. Elle était à l'intérieur d'elle-même, à l'écoute de son cœur, de son âme. Oui, Isabelle avait un naturel lent, profond. Il lui fallait beaucoup de temps pour atterrir, pour se poser là où elle était afin de faire front ou tout simplement afin d'écouter, de se remplir des mots des autres. Elle était une maîtresse de maison sans espoir. Il lui fallait des heures, par exemple, pour se mettre en route le matin. Le temps d'émerger de son sommeil, oui, comme d'une mère profonde, bienfaisante, nourricière. Le temps de préparer le petit déjeuner, de le prendre, de le laisser descendre dans le corps. Le temps de retrouver ensuite la légèreté nécessaire pour nourrir l'esprit. De même, il lui fallait des heures pour affronter l'extérieur et des heures pour retrouver l'intérieur. Quand elle rentrait en hiver, elle n'était opérationnelle que lorsqu'elle avait enlevé toutes les pelures, peaux successives dont on se recouvre quand il fait froid, blousons, gants, écharpes, et cela lui prenait un temps très long. Avant de sortir, l'opération inverse s'imposait de remettre toutes les pelures dans le bon ordre. C'était effrayant tout ce temps passé seulement à ces deux opérations. Mais elle prenait à son compte la belle phrase qui accompagnait le fameux tableau « Elegit optimam partem ». Elle avait choisi la meilleure part. Fin de la nuit. Sous emprise. Vladimir avait passé une enfance difficile car il ne s'entendait pas avec sa mère. S'il pensait rouge, elle pensait vert. S'il disait oui, elle disait non. Ils étaient sans cesse aux antipodes tous les deux et c'était fatigant de toujours se disputer. La seule chose qui les avait mis d'accord avait été l'idée d'apprendre la musique. Hélas, pas pour longtemps. Elle n'aimait que la musique romantique, lui était passionné par le jazz. Aussi fit-il très tôt partie d'un orchestre de New Orleans. Sa mère disait bien sûr que ce genre de musique n'en était pas, juste un passe-temps qui permettait d'enfiler des notes, n'importe lesquelles d'ailleurs, à partir de partitions toutes bizarrement écrites. Le jazz, musique de perdition, musique de la luxure. Lui, de son côté, avait fait évoluer ses goûts. Il travaillait maintenant dans un ensemble de musique concrète. Sa mère n'aimait pas plus que le jazz. Comme pour beaucoup de gens, l'art s'était arrêté à l'impressionnisme pour la peinture, au romantisme pour la musique, Chopin et compagnie. Tout ce qui venait après, le début du XXe siècle, était à mettre à la poubelle. Ils étaient donc toujours en désaccord sérieux et cela le minait. Ses collègues, très reconnaissants de ses talents, lui avaient demandé de diriger leur ensemble car ils le trouvaient particulièrement inspiré et compétent. Il avait accepté avec empressement, il aimait profondément la musique et devenir le créateur d'une œuvre l'enthousiasmait. Il exerçait donc maintenant le dur métier de chef d'orchestre et ce nouveau travail lui faisait du bien en lui donnant des responsabilités et en occupant sans cesse son esprit. Il donnait beaucoup de concerts, devenait célèbre et reconnu, chef officiel de l'IRCAM. Il allait bien. Puis un jour, en pleine représentation, devant un parterre d'officiels, tandis qu'il dirigeait une de ses œuvres préférées, le harcèlement quotidien de son enfance avait refait surface violemment. Il avait perdu la mesure brusquement, perdu l'équilibre et perdu définitivement la raison. Fin de la nouvelle. Recule-toi. On dirait une poule qui a trouvé un couteau, dit-il. Tu ne peux pas agir. Bougez un peu, ma pauvre fille.
Elle ne bougeait pas. C'est vrai, elle était pétrifiée par la violence de son père. Elle ne bougerait pas. Elle préférait attendre, réfléchir, prendre au bon moment une bonne décision. Agir. Pour aller où? Pour faire quoi? Avant d'agir, il fallait avoir beaucoup réfléchi. Il fallait avoir un projet, une raison forte. Ce que son père aurait souhaité, c'est qu'elle bouge pour bouger comme ça. Pour se rassurer lui-même, il n'aimait pas la voir inactive, enfermée dans ses rêves, dans sa vie intérieure, ça lui faisait peur. À son père, de l'avoir ainsi. Lui, avait-il une vie intérieure? Avait-il une vie après la vie? Après le quotidien? Après les obligations matérielles? Une vraie vie, quoi, une vie où l'on pouvait rêver, où l'on pouvait s'échapper? Le quotidien pesant, elle s'en foutait. Ça ne la faisait pas sourire et elle n'aimait pas agir comme tout le monde, dans tous les sens, dans la consommation, dans le paraître, dans l'esbrouf. C'était ça, agir pour elle. C'était perdre sa vraie vie, celle qu'elle était seule à avoir. Pas celle des vêtements à la mode ou celle des courses aux vitrines. Son père voulait des actions qui le rassurent, qui lui fassent oublier sa propre vie, sa profondeur, qui lui permettent de faire passer ses angoisses. Et elle disait « Oui, je suis une poule qui a trouvé un couteau. Non, je ne bougerai pas. Oui, papa, je suis une poule, un petit animal que l'on mange, que l'on tue. Mais attention, papa, j'ai trouvé un couteau. Tu veux que j'agisse? Vraiment? Et si je m'en servais de mon couteau? Et si je passais à l'action comme tu le souhaites? Recule-toi, papa, recule-toi! » Fin de la nouvelle. Fin de la nouvelle. Pourquoi, maman? Je ne veux pas être méchante. Ma mère, je l'ai embrassée des centaines de fois. Des millions de fois, et même des centaines de millions de fois, et même plus. Des millions de millions. Je ne sais pas comment on dit ça. Voyez-vous, je suis une embrasseuse, je passerai ma vie à embrasser. Bon, revenons aux choses sérieuses, maman, je t'ai déjà embrassée au moins une fois. D'un beau baiser doux, de fille, oui, je l'espère. Car... plutôt froid les tiens de baiser. Tu n'as jamais osé te laisser aller, ni me serrer dans tes bras, me serrer, comme je le faisais moi-même. Non, Tu as serré les poings, tu as serré les mains, tu as serré les dents. Mais les baisers, tu laissais faire, tu les donnais rarement. Moi, comme une folle, je t'embrassais avec mes bras. Je te faisais rire en faisant le clown. Je te racontais des bêtises. Oui, pour que tu ris, tu avais tellement besoin que je te fasse rire, tu te rappelles? Embrasser, ça veut dire serrer avec les bras, non? Toi, toujours, tu laissais faire, tu attendais que ça vienne à toi, oui, les baisers. Tu les donnais rarement, du bout des lèvres, du bout des doigts, du bout des dents, du bout du cœur. Pourquoi, maman? Toi qui avais justement le cœur sur la main, comme on dit, toujours prête à donner, à faire plaisir. Comment as-tu fait? Le corps ne venait jamais. Tu embrassais avec l'intérieur des yeux, du plus loin que tu pouvais. Le corps ne venait pas avec le baiser. Il restait au loin, très loin. Il fallait seulement regarder tes yeux pour comprendre, mais ne rien attendre pour le reste. Le reste, c'était les mains qui ne serraient que des mains. Les mains des étrangers, pas les corps de tes enfants. Jamais les corps et jamais tes bras. Si je parle d'unique fois, c'est pour le souvenir que j'ai, oui. Une fois peut-être. Je n'ai aucune empreinte de ton corps dans mon corps. Je n'ai aucune trace de ta chaleur, de ta rondeur, de ta présence près de moi. Je sais que tu étais là pourtant, à la manière d'un fantôme bienveillant. C'est cette bienveillance qui me reste aujourd'hui et dont je te remercie. Fin de la nouvelle. On va au cinéma. On va au cinéma. On va au cinéma. Les films pleins de mystères. J'aime tellement ça, avait dit Daniel en entraînant Georges. L'intrigue, ici, était plutôt enfantine. Pour tout dire, il n'y en avait pas. Tonton avait englouti son sirop à la menthe à toute vitesse avant de la suivre. Maintenant, derrière l'écran, une professeure s'obstinait à donner un cours à des garnements qui n'avaient aucune attention. Tonton s'énervait. Le film manquait vraiment d'intérêt pour lui. Mais pourquoi j'ai bu ce sirop de menthe? Il me reste là dans le gosier ce goût de sucre. Et cette prof, qu'est-ce qu'elle fout là? Daniel avait traîné Georges au cinéma, en effet, devant ce film qui lui rappelait les années où elle était enseignante. Tonton s'était laissé faire. Daniel avait dit qu'il y avait du mystère et une bonne progression dans l'action. Elle l'avait lu dans le journal. Moi, la filleule, j'étais là aussi, mais j'étais comme Georges. Je ne trouvais pas le film génial du tout. Il était triste et sans rebondissement. Cette prof, franchement, se battait avec ses élèves pour faire entrer la moindre chose dans leur tête. J'en avais bien connu des profs comme ça. Et beaucoup d'élèves aussi. Elle se battait comme une folle. On sentait un réel sentiment d'épuisement. Le combat était perdu d'avance. Pourquoi faire un film sur ce sujet-là, tellement désespérant et sans issue? Georges ne rêvait maintenant que d'un petit verre de rouge pour faire passer le sucre. Seul Daniel suivait attentivement le déroulement des images et des pauvres dialogues. Soudain, elle cria à l'adresse de Georges qui commençait à somnoler et qui sursauta. « Regarde, regarde, les élèves, ils sont peu à peu transformés, métamorphosés, non, pas en bons élèves, non, ils sont changés en statues, leurs têtes disparaissent petit à petit, leur corps aussi. » Comment le metteur en scène a-t-il pu faire ça si doucement dans l'extrême ralenti? Pour un œil non attentif, on ne voyait rien venir. Mais Danielle, elle, voyait tout ce qui se passait par le menu, dans l'imperceptible, presque dans l'invisible. C'est qu'elle sentait venir la chose, elle la sentait, car elle l'avait déjà éprouvée tellement de fois dans sa carrière. Cette impuissance devant une tâche trop lourde, devant des adolescents malmenés, malheureux, c'était une besogne énorme, impossible, un travail monstrueux qui était à faire, et elle n'y était pas arrivée. Tous les élèves venaient de se transformer en moulins à vent. « Aucun intérêt, » dit Georges en se levant, et il partit avant tout le monde, libéré par le dénouement, afin de se rincer la gorge. Fin de la nouvelle. Joséphine. Il était une fois une petite fille qui s'appelait Joséphine. Elle avait 10 ans, une chevelure noire énorme et bouclée. Elle était toujours un peu triste, car sa mère ne l'aimait pas. Elle ne savait que faire pour gagner cet amour impossible. Elle essayait sans cesse de la séduire avec son luth, dont elle jouait déjà fort bien, mais ses efforts étaient toujours restés vains. Elle se réfugiait alors dans la forêt, près des animaux, tous très gentils avec elle. Dès qu'elle pénétrait au manoir, elle voyait sa mère commander méchamment aux serviteurs, et son regard se pétrifiait, son ventre se serrait. Elle savait alors qu'elle n'était pas désirée. Elle cherchait à se faire toute petite, à se rendre invisible. Les amies de sa mère étaient toutes des sorcières. Elles organisaient ensemble des messes noires. Joséphine était souvent l'enjeu de toutes ces mauvaises pensées réunies. Un jour, l'une d'elles lui jeta un sort qui la mit en sommeil pendant 10 ans. Aucun médecin ne put lever le sortilège. Le temps passa, et dans le manoir, Joséphine dormait toujours. La départementale Dreux-Châteaudun longeait maintenant l'unique forêt du pays. Le temps passa, et dans le manoir, Joséphine dormait toujours. La départementale Dreux-Châteaudun longeait maintenant l'unique forêt du pays et Charlus y conduisait quotidiennement son car qui assurait la liaison entre les deux villes. Mais un jour, une panne d'essence le cloua là en pleine campagne. Pourtant, on ne pouvait pas dire que Charlus était insouciant. Il n'était jamais tombé en panne d'essence. Et celle-ci avait quelque chose d'insolite, car le fait lui échappait totalement, sortait de son libre arbitre, comme un chemin tout tracé serait brusquement sorti de sa route. Il sentit très fort qu'il devait écouter son destin, ne se lamenta pas, ne se découragea pas, prit cet incident comme un événement positif et se laissa conduire. Il fit à pied le tour des lieux et aperçut une demeure à travers les arbres. Il décida d'aller voir de plus près pour demander de l'aide. Quand ils se furent rapprochés suffisamment du manoir, les portes s'ouvrirent pour lui laisser libre passage. Il fut bientôt dans une grande pièce et là, au beau milieu, Joséphine dormait. Il s'approcha et la regarda tendrement. Elle se réveilla, comprit que son prince était venu, qu'il était temps, saisit son luth et se mit à jouer tellement bien que Charlus en fut tout séduit. « Salut la compagnie et pas de chichi » cria-t-elle en se dirigeant vers la sortie. Elle empoigna son instrument d'une main et de l'autre la main du chauffeur en chantant à tue-tête « je me barre en car, carambar, carambar !» Fin de la nouvelle. Fin de la nouvelle. Tais-toi donc un peu. Je peux pas, puis arrête de me regarder comme ça, comme si j'étais enragée. T'as qu'à pas écouter, tu vas faire un tour, puis quand tu reviendras, j'aurai peut-être fini. Je peux pas m'empêcher de parler, avait dit Josiane. C'était tout le temps comme ça avec Simon. Il ne voulait pas la laisser parler. Il trouvait que son discours manquait trop souvent d'intérêt, qu'elle jacassait, comme il disait, qu'elle pérorait, que son français était incorrect ou vulgaire. Il ne supportait pas qu'elle prenne la parole à tout propos pour ne rien dire d'après lui. Simon était allé faire un tour, il avait pour une fois suivi les conseils de Josiane. Tout allait mieux ainsi. Lui ne parlait pas beaucoup, Il disait que l'air était toujours occupé, un peu comme il aurait dit que l'atmosphère était toujours polluée, pas moyen d'en placer une, pas moyen jamais de faire place au silence. Mais Josiane, pourquoi parlait-elle? Elle parlait car Simon ne parlait pas. Et oui, il fallait bien combler cette absence insupportable. Elle disait que rester des heures entières à écouter voler les mouches, ça lui plombait le moral. C'est alors que tous les soucis revenaient, tous les incidents de la journée, plus ou moins désagréables, arrivaient pêle-mêle dans sa mémoire. « Tu parles trop !» insistait Simon. Et alors, Josiane s'arrêtait net et le blues revenait. Elle était chaque fois très en colère qu'on lui coupe ainsi la parole. Aussi, l'idée d'une petite vengeance montait en elle. Simon attendait des nouvelles importantes concernant son emploi. Si c'était elle qui décrochait le téléphone, elle ne le mettrait pas au courant. Et justement, le téléphone avait sonné. « Personne n'a appelé aujourd'hui ?» avait-il demandé en rentrant du travail. Elle n'avait pas répondu. Pour une fois, elle s'était murée dans son silence. Elle avait réussi à tenir sa langue. Elle l'avait laissé poser sa question. Et celle-ci avait résonné dans le vide. Elle était fière de sa performance. Le pari. Nous étions quelques-uns à nous aimer d'amitié une petite bande qui laissait échapper des éclats de rire monstrueux. De quoi réveiller les chauves-souris. D'ailleurs, ça y était, on commençait à les voir sillonner le ciel et amorcer leur virage à 90 degrés à folle allure. Simone se tenait la tête, car elle croyait aux bêtises que les gens racontent, à savoir que les chauves-souris s'accrochaient dans les cheveux. Hélène aussi avait peur de la même chose, sans oser le dire. Les garçons, eux, se moquaient, comme d'habitude. Il y avait Patrick, il y avait Christian. Ils discutaient en lançant aux filles des regards espiègles. Apparemment, à leur manière de chuchoter, ils étaient en train de préparer un coup fumant. Les éclats de rire continuaient à fuser, les filles se marraient bien quand même avec leurs histoires de peur. Tous les cinq, avec moi, la narratrice, buvions copieusement, ce qui accentuait encore les hilarités. Tout à coup, Christian fit part de son idée à haute voix. Il s'agissait d'être dans 3 heures montre en main au bord de la mer en Bretagne, pour être précis, et sans passer par l'autoroute. Les chauves-souris volaient toujours, pour l'instant, dans la banlieue parisienne. Tous les cinq habitions entre Vincennes et Montreuil, où quelques mètres carrés de verdure et quelques arbres faisaient croire à la campagne. Bon, le pari était lancé. Les femmes protestèrent mollement, évoquant le danger de conduire dans cet état, mais personne n'était apte à protester d'une façon plus nette et plus virulente. Les derniers verbus nous priment place, tous les cinq, dans la 403, un des premiers modèles roulants de la gamme dans la maison Peugeot. C'était parti. Patrick, assis devant à côté du chauffeur, avait pour mission de tracer l'itinéraire. Bien sûr, les hommes devant, les femmes derrière, on n'avait même pas discuté du sujet. Ça allait de soi, c'était ainsi. Je me souviens très bien de cette nuit-là. Moi, la narratrice. La voiture roulait aussi vite que le permettait son pauvre moteur usé. Nous étions toujours hilares. Un feu rouge nous arrêta. Le conducteur redémarra au vert, joyeusement. Et dans un éclat de rire avec Patrick, fit une embardée dans la file de voitures stationnée à notre droite. Et l'on entendit une succession de « boum, boum, boum » dans la nuit silencieuse, chaque fois qu'une voiture de la file s'encastrait dans la précédente. Fin de la nouvelle. La fourgonnette d'Albert Lingot. Albert est au volant de sa fourgonnette verte. Il fait ses livraisons, il s'arrête tous les 500 mètres pour décharger les bouteilles de Sancerre, sans les casser, dans toutes les brasseries et tous les bistrots de la rue. Il avance aussi au rythme des feux, rouge, vert. Mais il en a marre de ce métier qui n'en est pas un. Il pourrait livrer n'importe quoi, ce serait pareil, des chaussettes, des escarpins, des brouettes, des mocassins. Pour le Sancerre, il avait postulé tout de suite. C'est vrai, il avait un petit faible pour ce vin-là, bien qu'il se fût arrêté de boire. Il avait essayé tous les métiers, même trieur de clous chez un tapissier pendant la guerre. Un clou, c'est un clou, disait son patron. Il devait faire des tas de clous rouges et des tas de clous verts. Quelle charmante occupation! Son rôle s'arrêtait là. Quand il avait terminé, on lui faisait livrer un autre tas de clous multicolores et il ne devait trier que les rouges et les verts, un ordre de son chef qui était peut-être daltonien. Il laissait en vrac les clous bleus, les clous jaunes, les violets, les gris, les métallisés. Ce travail avait duré un an. On avait besoin de petites mains à cette époque où il était un très jeune enfant et où tous les hommes valides étaient encore au front. Aujourd'hui, c'est différent. Il approche de la soixantaine, il est livreur et il en a marre. Il reste encore beaucoup de bouteilles à livrer au fond de la fourgonnette. Albert aimerait bien un bon métier intéressant, peu importe l'argent. Il flotte, il a la tête qui flotte. Il rêve, il est au volant d'un truck vert et rouge comme Bartabas. Il entraîne ses chevaux, puis d'un coupé en charmante compagnie, puis d'une grande décapotable américaine comme Belmondo dans À bout de souffle. Jean Seberg est bien à ses côtés, il fait des bons mots, elle le flatte, il bombe le torse. Il est un peu désabusé, mais la fille est jolie, son petit accent anglais est si charmant. La voiture fend la route, comme il est bon de se laisser aller. Le soleil décline dans le ciel, les ombres s'allongent au bord du chemin, la rue à livrer est maintenant derrière lui, tant pis, quel bonheur. L'air est moins chaud, il fait doux. La petite américaine lui caresse le visage et lui parle tendrement. Il pense qu'il va l'inviter dans la prochaine brasserie où il s'arrêtera. Non, il ne livrera pas le Sancerre qui reste aujourd'hui. Il le boira avec elle. Il lui offrira une bouteille. Chacun à son tour de prendre du plaisir, de côtoyer le bonheur, de le fréquenter, même assidûment, pourquoi pas. D'un index agile et précis, il remonte ses lunettes de soleil qui glissent sur son nez. Il est content de lui, il se sent irrésistible, comme tout lui paraît simple soudain. C'est décidé, il va l'inviter. Elle lui caresse toujours la joue droite du bout des doigts, tandis qu'il fonce sur la route. « Attention, c'est rouge, il faut freiner !»« Monsieur, monsieur, il faut vous réveiller, monsieur !»« Tiens, pourquoi elle me dit de me réveiller, la petite américaine ?» se dit Albert. « Monsieur, monsieur, réveillez-vous !» Albert ne comprend rien. Pourtant, il est bien au volant de son véhicule, pourtant il a bien entendu une fille crier à côté de lui qu'elle le trouvait beau. Se serait-il trompé sur l'interprétation des cris ? « Monsieur, vous avez eu un accident, vous avez grillé le feu rouge, vous êtes rentré dans la vitrine d'un restaurant, on vous a opéré, vous êtes à l'hôpital, on vous soigne, tout va bien maintenant, il faut vous réveiller. » Albert est allongé et une femme en blanc lui caresse la joue droite en lui parlant pour le réveiller. Fin de la nouvelle.